Donc, Ésaïe, chapitre 55. Et vous avez vu que j'ai mis comme titre Acheter sans rien payer. Alors, ce n'était pas d'une originalité énorme parce que ce sont les mots de ce passage. N'est-ce pas? Venez, acheter sans rien payer. Et donc, nous allons lire ce chapitre 55 d'Ésaïe. J'aurais aimé en lire simplement une partie, mais c'était absolument impossible de couper quelque part. Donc, Ésaïe 55, commençons au verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Et c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons donc regarder ce passage. La semaine dernière, si vous étiez avec nous, on a regardé le chapitre 54 et quelque temps avant, je ne me rappelle plus quand, nous avions passé pas mal de temps sur le chapitre 53 d'Ésaïe. Chapitre 54, on a vu comment l'œuvre terriblement coûteuse du Messie a ouvert la perspective de renversement surprenant. Les choses ont été transformées. Et on pense tout de suite aux paroles de Paul qui dit que si on est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses sont complètement différentes, n'est-ce pas? Un nouvel univers, une nouvelle humanité, de nouvelles promesses viennent éclater dans la stérilité de notre pauvre monde. Voilà ce qu'est l'Évangile, mes amis. C'est une nouvelle création, un nouvel univers. Et l'Église, c'est une nouvelle humanité. Et le prophète nous a lancé le défi de faire exploser une joie réelle face à ce miracle divin, une joie qui imprègne et motive la vie tout entière, parce qu'il est vraiment opposé à la religiosité. Nous avons vu cela. Mais, car il y a un mais, il ne suffit pas de savoir ces choses. Elles sont vraies, mais cela ne suffit pas. Mes amis, la grâce de Dieu n'est pas simplement de la théorie. Ce n'est pas seulement une confession de foi. Même une confession de foi correcte et biblique. L'offre du salut repose au cœur même du cœur de Dieu. Il a tout fait. Venez, car tout est déjà prêt. C'est lui, le grand missionnaire. Et on peut imaginer quelques experts en nutrition, par exemple, qui observent et examinent la table d'un banquet et il écrit son rapport. Ou quelqu'un qui va dans un restaurant pour écrire un rapport. Tout est bien mis en place. La nourriture est de la meilleure qualité, est bien préparée, c'est bien équilibré, les vins sont choisis avec le plus grand soin, et non seulement ce sont de bons vins, mais ils s'associent avec chaque plat en harmonie. Et notre homme, il peut écrire tout un rapport au sujet du banquet, mais il n'en connaît ni le goût, ni la joie. Or, quand on parle d'un banquet, on parle de joie. Et je me demande si, pour beaucoup de ceux qui entendent l'Évangile, il n'en est pas ainsi. Même dans les églises, où est la joie de la grâce? Où est la plénitude? Où est la satiété de la grâce? Quand on arrive à la fin du banquet, et c'est le moment le plus douloureux pour certains d'entre nous, et ceux qui me connaissent savent que je me place là-dedans, parce que le dessert vient, mais on n'a plus de place. On n'a plus de place. C'est la satiété. Eh bien, est-ce qu'on est ainsi avec la grâce? Ah, Seigneur, arrête parce que je n'en peux plus. Mes amis, avez-vous jamais eu l'esprit plein de grâce comme l'invité au banquet à le vendre plein des victuailles offertes sur la table? Voilà le défi que nous lance l'Évangile. Pour vous, mes amis qui êtes appelés à prêcher, par exemple, à partager les richesses insondables de Christ, la question se pose aussi, et c'est une question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Est-ce que nous n'annonçons pas plus les grâces que nous annonçons la joie de Christ? Or, il y a une joie bouillonnante dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Oui, tout ce que nous disons quand nous partageons l'Évangile, quand nous prêchons l'Évangile, tout est correct, plus ou moins. Mais où est cette onction, cette huile qui se déverse, qui est renversante de l'union avec Christ? Est-ce que je parle de la grâce ou est-ce que je parle de celui qui est mon époux, mon bien-aimé? Oui. C'est où se trouve cette dynamos, cette grande dynamique de la parole de Dieu, cette force, vous voyez? Voilà les questions qui se posent. Et j'ose poser ce genre de questions parce que souvent on voit dans les églises, et je dirais même des églises qui sont très enseignées d'une manière très biblique, on voit encore une grande crainte, la présence d'une grande crainte. Les gens font ce qui est correct par crainte de détonner, par crainte peut-être des conséquences. Oh, les responsables vont venir me voir et puis me poser des questions, et peut-être que je fais mal. Et à travers mes voyages, je vois ça beaucoup trop. Oui, je ne fais pas les choses correctes parce que je suis amoureux de Christ, oui je le dis, et d'une certaine manière je le suis, mais ça n'est pas la motivation principale. Au-delà de cela, je fais parce que je crains que sinon je vais faire mal. Non, il y a liberté dans l'Évangile, il y a joie dans l'Évangile. Et voilà pourquoi il nous faut poser ces questions et voilà pourquoi il nous faut venir à un tel passage. Où est cette source d'eau vive qui jaillit jusqu'à entrer dans la vie éternelle? Voilà la question qui se pose à partir de tel passage. Et c'est là que nous trouve le Seigneur par la bouche de son prophète Ésaïe. Venez, 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 c'est un banquet. Mes amis, vous avez vu la beauté du salut, mais est-ce que vous êtes venus? Et est-ce que vous revenez sans cesse? Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très vivant, très vivant. Et c'est très important de voir la parole de Dieu comme une parole vivante. Ne laissons pas ce mot être utilisé d'une manière étriquée. Non. Notre texte ici, il se divise, ou plutôt il s'articule en quatre parties. Et il le fait d'une manière typiquement hébraïque. Il y a en fait des parallèles. Versets 1 à 3, « Venez et soyez repus ». Et puis, il revient à ce thème au verset 6 à 9. « Revenez et soyez transformés ». Et puis, versets 4 à 5, « La victoire de Dieu est assurée ». Il n'y a pas de peut-être avec lui. Et puis, versets 10, 11, « La parole de Dieu est efficace ». Donc, « Venez, revenez, car un monde renouvelé vous attend ». Et ça, ce sont les versets 12 à 13. Donc voilà, c'est décortiqué et on va avancer dans notre premier point que j'intitule « Venez et soyez repus, tiret, revenez et soyez transformés ». Pour celui qui a soif, il ne suffit pas de savoir qu'il y a de l'eau au fond du puits. Jésus était assis sur le puits, sur la margelle du puits, mais il avait toujours soif. Pour celui qui a faim, il ne suffit pas de savoir qu'il y a du pain à la boulangerie. L'un doit boire goulûment de cette eau s'il veut être ravivé et ne pas mourir, s'il veut être en pleine possession de ses capacités. L'autre doit manger ce pain pour retrouver ses forces et pour avancer sur le chemin. Donc la connaissance n'est pas simplement ça. Et c'est exactement l'appel de l'Évangile. Même un enfant peut entendre ça, peut comprendre ça. Venez, écoutez, mangez, cherchez, invoquez. Ça, ce n'est pas difficile. Et d'emblée, nous voyons que la connaissance est indispensable. Comment est-ce qu'on peut aller vers ce dont on ignore l'existence? Comment chercher ce dont on ne sait pas que c'est disponible? Donc, la connaissance est indispensable. Mais il n'y a pas que la connaissance. En fait, la connaissance à elle seule ne suffit pas. Il faut venir, il faut chercher, il faut invoquer ou supplier. Aujourd'hui, la chose n'est pas tellement évidente pour nous, car tout est servi sur un plateau. Et c'est d'ailleurs une des tyrannies pour les publicitaires. Il faut que quelqu'un, que ça soit à disponibilité, parce que si on attend trop, on ne clique pas ou on ne prend pas et l'affaire se perd. Non, tout est servi sur un plateau. Autrefois, par exemple, vous vouliez un renseignement. Alors, il fallait aller creuser dans des livres, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait demander à quelqu'un d'autre, alors il fallait réfléchir qui est-ce qui peut me donner cette information, aller voir la personne et ainsi de suite. Aujourd'hui, on allume l'ordinateur, on allume le téléphone maintenant, et l'info est là. Bon, il faut passer du temps des fois à faire le tri. Mais voilà. Pour le salut, par contre, ça n'est pas ainsi. Il faut aller le chercher. Mais vous direz, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas la force. Écoutez, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Bien entendu, on fait le pendant. Celui qui n'a pas de force, celui qui n'a pas les moyens, celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne, venez acheter sans rien payer. Alors, on voit tout de suite qu'on ne parle pas de notre monde, parce qu'aujourd'hui, si on veut acheter, il faut payer. Quoique, il y a beaucoup de gens qui achètent sans payer. Mais ça, c'est autre chose. Mais ici, nous parlons dans le domaine de la grâce. Cherchez, car Dieu est prêt, il est proche, et il est prêt à donner. Retournez, revenez. Pourquoi? Parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est un Dieu qui pardonne, et il pardonne. Et on pense à ce moment où Pierre vient parler au Seigneur, et c'est « Seigneur, combien de fois il faut que je pardonne ?» Alors déjà cette fois, c'était beaucoup pour Pierre, mais le Seigneur lui dit « Non, non, il faut pardonner, pardonner, point, c'est tout. » Donc, un Dieu auquel on peut revenir, pourquoi? Parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. J'ai fait la même erreur qu'il y a 10 minutes, reviens, il pardonne, en Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin, croyant, vous l'avez déjà. Vous avez soif, n'est-ce pas? Car ce monde, c'est un vrai désert, rempli de mirages, rempli d'illusions, mais il est étreint par la sécheresse. Je l'ai souvent mentionné, mais quand on passe par un moment difficile, les gens viennent nous consoler en disant « ça va aller ». Personne ne sait. Non, c'est une grande sécheresse. Ne savez-vous toujours pas que ce que ce monde offre à grand prix ne nourrit pas? Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit « pourquoi est-ce que vous dépensez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?» Et aujourd'hui, le monde nous pousse à dépenser des tas de choses pour quelque chose qui ne nourrit pas. Voilà, on va avoir la voiture dernier cri, le dernier modèle. On va même l'avoir avant qu'il soit public et tout ça. Mais demain, il est vieux parce qu'il est quelque chose de plus neuf. Non, ça ne nourrit pas. Et Dieu vous invite, Dieu nous invite. Écoutez-moi, prêtez l'oreille. Mon ami, tu peux fermer tes oreilles, mais tu as des oreilles. Alors, écoute. Écoute. Pourquoi venir? Pourquoi écouter? Eh bien, voilà du vin, voilà du lait, voilà des mets succulents. Et le mot, en fait, c'est des mets gras. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas trop pour le gras, mais ça veut dire des mets qui remplissent, des mets qui rassasient. Voilà. Tu mangeras ce qui est bon, de la meilleure qualité. Ton âme se délectera de mets de grande valeur. Ton âme vivra. Est-ce qu'elle a jamais vécu en dehors de cela? C'est la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Oh oui, une chose est vraie, c'est que l'appel de l'Évangile est extravagant, il est prodigue, il va au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Dieu ne nous appelle pas à un repas, il nous invite à un banquet. Et le banquet, l'idée du banquet, c'est que rien n'est compté, c'est l'abondance pleine de prodigalité. Tu veux te laisser aller, tu veux faire l'imbécile, eh bien vas-y, si on peut dire. Et c'est un peu comme cela. Tu as goûté de l'Évangile, mais tu n'as jamais goûté assez. Ça n'est pas possible. Mais attention, attention. N'oubliez pas que vous êtes sur la terre et que Dieu est au ciel. Si l'offre de l'Évangile est prodigue, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. C'est pourquoi le prophète dit, regardez au verset 6, « Car l'Éternel te rappelle, cherchez l'Éternel, oui, cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. » Il y a un moment où l'Éternel ne se trouve pas. Il y a un moment où il n'est pas prêt. Mes amis, avez-vous jamais pris en compte qu'il existe un temps où on ne trouve plus, un temps où l'Éternel n'est plus proche, n'est plus disponible? Ça paraît dur à dire, mais par exemple, nous avons fait des études dans la passion de Jésus. Eh bien, toute la semaine avant le temps de Golgotha, Jésus enseignait ses disciples. Si quelqu'un n'était pas disciple mais était à Jérusalem, il ne pouvait pas bénéficier de son enseignement. Il y a un temps pour le salut. Veillons à ne pas l'oublier. Veillons à ne pas passer au-delà de ce temps. Quand on est jeune, on dit, bon, oui, ces choses-là, il y a peut-être du poids quelque part. Oui, je sens qu'il y a quelque chose. Mais je suis jeune, laissez-moi vivre ma vie. Quelle vie? Est-ce que tu sais si tu seras là encore ce soir? En tout cas, il est possible que Dieu ne soit plus proche ce soir. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est pour cela qu'il y a ce côté d'immédiateté là. L'appel de l'Évangile est pressant. On a vu tout à l'heure dans la parabole. Va promptement et contrains-les. Il ouvre, cet appel de l'Évangile, il ouvre sur une telle prodigalité qui convient à tous les besoins, mais il est aussi urgent car Dieu n'est pas toujours là. Il y a un moment, et il y aura un moment, où ce monde va arriver à son terme. Dieu n'est pas toujours là. Pourquoi? Parce que même si nous voulons l'oublier, même si on réussit à l'oublier, lui sait qu'il y a en nous un obstacle par nature, un obstacle insurmontable. Et c'est pour ça que le prophète dit que le méchant abandonne sa voie. Personne ne pourra entrer en Christ, personne ne pourra entrer dans le ciel avec son iniquité. Il faut se détourner de ces choses-là. Mais je ne le peux pas. Alors, venez, viens, sans argent. Oui, le salut est gratuit. Oui, le salut est libre, il est abondant. Mais ce salut a coûté très cher à Dieu. Et c'est pour cela que Ésaïe, chapitre 55, vient après Ésaïe 53. Parce que là, nous voyons que même si moi je viens sans rien payer, quelqu'un a payé. Oui, viens sans rien payer. Pourquoi ? Quelqu'un a payé. Quelqu'un a déjà payé et il a tout payé. Dieu a ouvert la porte au travers du sang de son agneau, au travers du sacrifice, au travers de la mort de l'agneau. L'agneau a été mis à mort. Il ne peut plus vivre. Et c'est ainsi, à grand prix, parce que c'était son agneau, son fils unique. Dieu a pitié, même de l'homme d'iniquité. Mais cet homme-là, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Oui, mais il pardonne à celui qui vient, à celui qui revient, qui retourne. Alors, mes amis, alors toi qui m'écoutes, viens, tout simplement. Et personne qui est vraiment venu ne dira à cette invitation, « Mais je suis déjà venu. » Non, parce qu'on vient toujours plus. On vient toujours plus. Celui à qui Dieu a déjà fait grâce, et peut-être même déjà depuis longtemps, eh bien, que celui-là ouvre aussi l'oreille. N'as-tu pas dépensé beaucoup d'argent pour ce qui ne nourrit pas, même depuis que Dieu t'a fait grâce? N'as-tu pas travaillé pour ce qui ne rassasie pas? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? Non pas la vie de tes paroles, mais la vie que tu vis chaque jour. Tu as laissé, n'est-ce pas, le monde t'accaparer. Et où est le salaire? Où est le salaire? Tu as semé, pour ta propre vaine gloire peut-être, l'importance que tu t'imagines avoir. Et que récoltes-tu? L'âge vient, les gens ne se rappellent même plus ton nom. Oh, mon frère, ma sœur, retourne à l'Éternel qui aura pitié de toi. Et alors, ton âme qui aujourd'hui languit au-dedans de toi, cette âme assoiffée de Dieu revivra. C'est le message de l'Évangile. Venez, revenez, écoutez, vivez. C'était donc notre premier point. Mais Ésaïe continue, et c'est notre deuxième point ici. La victoire est certaine, la parole est efficace. Et l'un appartient à l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi venir à l'Éternel? Pourquoi abandonner les voies du monde? Ésaïe répond, la victoire de Dieu est certaine, certaine. Aujourd'hui, nous avons vécu une crise sanitaire, comme on appelle, de grande ampleur. Alors, on peut l'interpréter comme on veut, ça n'est pas mon propos ici. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'ils vont arriver un jour à maîtriser cette chose. On ne sait pas, on ne sait pas. Or, celui qui est en Christ sait que Dieu a déjà remporté la victoire sur le virus qui l'a complètement anéanti, lui. La victoire de Dieu est certaine. Et comment est-ce que nous savons qu'elle est certaine? Parce que c'est déjà une réalité. C'est ce que nous voyons au chapitre 53 d'Ésaïe. Il parle de celui qui va accomplir le salut et il rassasiera ses regards avec le résultat du salut. Et c'est déjà acquis, vous voyez. Et ici, dans notre chapitre, Ésaïe prend l'exemple de David et de l'alliance de Dieu que Dieu a contractée avec lui. C'est une alliance éternelle. Et David en est le témoin, mais il y a bien plus que David ici, parce que c'est une alliance éternelle et Dieu agit pour rendre durable, éternelle, les faveurs de cette alliance, pour les sceller. Et dans l'ombre du grand roi David, et David le comprenait comme nous avons vu, se profile le fils qui lui est promis et qui vient et qui n'est autre que le roi des rois, celui qui est souverain, absolu, éternel, le Seigneur Jésus-Christ, loin de Dieu, le roi davidique qui n'aura pas de successeur, puisqu'il dure éternellement. Et qui, entre parenthèses, soit dit, est aussi le sacrificateur éternel, le grand souverain sacrificateur, celui qui n'a pas le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron qui passe, mais selon l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce éternel. Donc celui qui a le pouvoir de mettre en place l'alliance, mais aussi celui qui peut offrir la victime qui est éternelle. Le substitut est promis dès les temps anciens. La postérité de la femme va vaincre. C'est depuis le début. Et chaque page de cette Bible que vous tenez en main vous dit qui il est et ce qu'il a fait. C'est celui que Dieu a envoyé. C'est celui qui est à la fois roi et sacrificateur. C'est celui qui est le Shiloh qui va avoir ce sceptre éternel. Et ainsi de suite. Et nous pouvons laisser le futur de côté, c'est-à-dire ne pas nous préoccuper du futur de manière à être paniqué, car la chose est aussi certaine que Dieu ne change pas. Dieu est immuable, toujours le même, et donc le salut du peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, est certain, certain. Et Ésaïe se sert d'une illustration de la nature ici. Et tout le monde est d'accord pour dire que le ciel est plus élevé que la terre. Quand on va dans le ciel, on prend un avion. Et il est certain que Dieu n'est pas à la mesure de l'homme. Il est au-dessus de l'homme. Il n'est pas comme l'homme. Et voici l'illustration. La pluie vient, elle tombe, elle arrose la terre. Et à tel endroit, elle féconde le sol. Et voilà que des plantes germent, des bonnes plantes. Là, elle vient, et au contraire, elle vient comme avec une tornade, elle vient et c'est l'inondation, elle balaie tout sur son passage et elle laisse la désolation derrière elle. On a des victimes et ainsi de suite. Eh bien, il en est ainsi de la parole qui sort de la bouche de Dieu, comme le montre Paul. En fait, c'est quelque chose de solennel, de terrible. Dieu envoie cette parole pour un dessein. Et Dieu envoie ses serviteurs avec sa parole pour un dessein. Parfois, c'est une saveur de vie qui produit la vie. Et si vous êtes croyant, vous savez de quoi je parle. D'autres fois, et c'est terrible, elle a une saveur de mort. Et vous savez aussi de quoi je parle. Vous l'avez vu en vous, mais aussi en d'autres. Elle produit la mort, mais elle accomplit toujours ce pourquoi Dieu l'envoie. Alors, au niveau de l'illustration physique dans le monde, c'est difficile. Nous n'avons pas les informations nécessaires pour savoir pourquoi Dieu envoie la catastrophe ou pourquoi il envoie la bénédiction à travers la pluie. Nous ne savons pas, mais nous savons que c'est toujours à dessein. Mais l'illustration sert à décrire la réalité spirituelle. Dieu envoie sa parole toujours. Aujourd'hui, en ce moment même, oubliez le prédicateur, mais vous entendez la parole de Dieu et cette parole vous atteint avec un dessein. Donner la vie ou pour donner la mort. C'est pourquoi, mes amis, il faut venir et étant venu, il faut écouter. Écoutez, qui est-ce qui vous a amené ici? Oui, ça peut être papa-maman pour certains, ça peut être la routine pour d'autres, ça peut être le désir, parce que d'ordinaire on le fait, et ainsi de suite, et tout ça. Non, ultimement, Dieu nous adresse à chacun d'entre nous une sainte convocation. C'est pour ça que nous sommes ce matin, en ce moment même, en présence de la parole de Dieu, vous et moi, et combien d'autres dans le monde. Et donc c'est pour cela qu'il faut toujours retourner, abandonner les voies de l'homme. Elles ne mènent nulle part. Elles ne mènent nulle part. Ce sont des illusions. Ces choses-là disparaissent. Peut-être vous vous dites, mais je suis jeune, j'ai encore la vie devant moi. Mais quelle vie! Même si elle dure jusqu'à très tard, ça ne sera jamais avec la force que vous avez maintenant. Donc autant venir. Mes amis, ces choses sont certaines et la parole est efficace. La parole accomplit cette œuvre. En ce moment même, Dieu est à l'œuvre pour forger un nouveau monde, un nouvel univers, un univers merveilleux où il y a la justice. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a rien qui soit souillé dans cet univers. Dieu est en train de le forger aujourd'hui à l'aide de sa parole. Même, et c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Vous avez entendu la lecture. Quand on arrive vers la fin du chapitre 55, vous dites, bon là on est en train de parler en images. Parce qu'on parle de les montagnes et les collines éclateront d'allégresse, les arbres de la campagne battront des mains. On se dit, oui, ça c'est un langage imaginé. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, n'est-ce pas? Dieu est en train de créer quelque chose que nous ne savons, nous ne connaissons rien de ce qu'il crée là. Même les arbres des campagnes vont recevoir des pouvoirs inconnus à ce monde. Alors vous allez me dire, bon, est-ce qu'ils vont battre des mains, ils n'ont pas de mains à battre et tout cela? Mais on sait qu'il y aura des fruits qui vont venir avec des vertus qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et ils battront les mains. Alors, là où ta vie était envahie par les ronces de l'amour du monde, là où c'était l'esclavage de plaire à Dieu, d'essayer de pacifier ce Dieu qu'on sait qu'il y a quand même une colère parce qu'on sait qu'on n'a pas fait toujours le bien, eh bien, à la place de cela, tu vas trouver le myrte avec son bon parfum et puis ses vertus consolatrices qui font du bien. Il va trouver ça au lieu des ronces. Lui, il a été méprisé, il a été abandonné, il a été dédaigné. Il a été frappé de Dieu pour les péchés du peuple. Il n'a point ouvert la bouche, mais il a tout payé, il a été jusqu'au bout. Alors qu'il avait la possibilité de faire le contraire, il pouvait se désengager à tout moment. Mais l'œuvre de l'Éternel, dit le prophète, prospérera en ses mains. Il se rassasiera du travail, des fruits de son travail, des fruits de ses douleurs. C'est pourquoi, pour reprendre les images du chapitre 54, stérile, répudié, dévasté, vous rappelez, comme nous le sommes, faisons éclater notre allégresse et notre joie. Les fils de la délaissée, les fils de ce monde, de ceux qui sont dans l'abandon, seront plus nombreux que ceux de celle qui est mariée. Dieu change les choses, les met sans dessus dessous. Est-ce que c'est ce que nous voyons sans cesse? Celui qui est hermétique à l'Évangile, entend l'Évangile, reste hermétique à l'Évangile. Mais voilà le jour de Dieu. Et le jour de Dieu, celui qui était comme un dragon, méchant, il devient comme un agneau. Non. L'alliance de Dieu ne s'éloignera jamais de toi si tu es en Christ. Quand bien même ce monde disparaissait, quand bien même les montagnes étaient chassées, alors, mon ami, toi qui as soif, toi qui n'as pas d'argent, qui n'as pas de capacité, qui n'as pas suffisamment de capacité et qui n'as rien pour te faire valoir, oui, toi, viens. Abandonne ta voix de méchanceté, abandonne ta voix qui est centrée sur toi-même. Abandonne tes pensées d'iniquité et alors tu connaîtras la vraie vie. Quelques passages de l'Écriture, tout simplement, qui nous montrent la prodigalité, l'abondance de ce que Dieu donne en Jésus-Christ. Laissons ces passages nous pénétrer, imprégner notre pensée, notre cœur. Jean 6, 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Deux chapitres plus loin, chapitre 7, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, ça c'était le point culminant de toute l'année pour les Juifs, Jésus se tenant debout, s'écria, et l'expression veut dire s'écria avec une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ce n'est pas compliqué. Hein? Jean, chapitre 4, verset 10, Jésus lui répondit, la femme samaritaine qui est au puits. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. On n'a pas le temps, mais cette eau vive, c'est un autre mot que l'eau du puits. C'est une eau qui bouillonne, une eau qui est sans cesse renouvelée. Puis au verset 14, il dit, Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce n'est pas une petite fuite, hein? C'est un geyser. C'est un geyser. Et puis, voilà la toute fin de la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Car c'est ça l'Évangile. Ne dépensez pas pour ces choses qui ne nourrissent pas, qui ne rassasient pas. Non, laissez-les de côté. Laissez-les de côté. Allez au Seigneur, implorez-le, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin, même pour boire, même pour manger. Et qu'il se glorifie dans le salut des âmes et dans l'affermissement de son peuple. Car une fois qu'on est venu, on n'a jamais soif, mais on revient encore davantage parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon qu'on veut en avoir toujours plus, comme un enfant, comme un enfant. Est-ce que l'enfant se fatigue d'avoir un bonbon? Non, il faut toujours plus, n'est-ce pas? Et j'entends des petits sourires, des petits bruits là qui me montrent que je suis en train de parler à des enfants. Mais voilà, eh bien, qu'on soit comme des enfants, on vient et on a toujours besoin de plus. Pas pour être nouveau, mais oui, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun d'entre nous. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as parlé et nos cœurs ont entendu parce que ta parole est claire, ta parole est simple. Et Seigneur, nous te prions en ce moment que tu donnes puissance à ta parole pour percer jusqu'au fond de notre cœur parce que notre cœur est dur. Tout de suite, Seigneur, des tas d'objections se lèvent. Des tas d'excuses se présentent. Oh Seigneur, écarte ces choses par la puissance de ton esprit et donne-nous de connaître ces choses par expérience dans notre vie et d'être un peuple de joie, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen.